Bonjour à toutes et à tous, nous sommes actuellement avec Monsieur Fraise qui est humoriste. Nos jeunes vont vous poser des questions. Je laisse la parole à tous les jeunes et on commence par Yevens.
Depuis combien de temps êtes-vous humoriste?
Yevens?
Yevens.
Yevens? Drôle de prénom. Ça vient d'où?
Slovénie.
Slovénie, d'accord. Depuis combien de temps je suis humoriste? Eh ben, humoriste. Ça fait 25 ans.
Okay. Êtes-vous à l'aise en public?
Alors, au début, il y a 25 ans, je ne l'étais pas du tout. Je m'en suis d'ailleurs bien servi avec le personnage que vous allez découvrir ce soir, puisque ce personnage est très mal à l'aise en public, alors que la plupart des humoristes, leur but, c'est de montrer qu'ils sont très à l'aise pour rassurer le public. Moi, j'ai opté pour faire tout le contraire. Mais quand même, au bout de 25 ans de scène, je suis plus à l'aise devant le public, mais pas plus sûr de moi pour autant.
Comment préparez-vous vos silences?
Alors, les silences, ça se prépare quand on écrit un spectacle et qu'on n'a pas tout misé sur le texte. Eh ben, je fais des parenthèses. C'est-à-dire que, par exemple, je dis « il arrive, il dit « bonjour tout le monde ». Et puis après, je mets une parenthèse, je dis « il se sent très gêné, il a quelque chose qui le déconcentre ». Ça s'appelle les didascalies au théâtre. C'est tout ce que pense le personnage, mais qu'il ne dit pas, mais que le public va ressentir puisqu'il le pense.
Vous répétez vos hésitations ou elles viennent naturellement?
Alors non, je répète rien du tout. Ça, c'est un parti pris. C'est pour me laisser une part de dérapage possible. Si je sais tout par cœur et que je suis très pointilleux, le personnage va être moins fragile. Donc je ne répète pas les hésitations. Par contre, je connais très bien mon personnage et si je lui laisse la place, eh bien, ça hésitera tout seul.
On peut rester comme ça combien de temps sans parler?
Je crois que... Il y a des gens qui ont battu des records. Tu peux regarder Andy Kaufman quand il était aux États-Unis et qui prenait le contre-pied du stand-up, où les gens parlent beaucoup. Eh bien, lui, il a réussi devant une salle d'étudiants, donc en amphithéâtre, il a réussi à vider toute une salle, sans rien dire, en une heure et demie. C'est un peu long à vider une salle.
Donc tout le monde est sorti?
Tout le monde est sorti. Il y en a qui sont endormis. Et puis, voilà. Mais c'était un performer. Donc, ce qui l'intéressait, à l'époque, c'était les années 70, mais c'était déjà l'art de faire le buzz et d'aller faire des trucs du grand n'importe quoi.
Vous préférez qu'on vous regarde ou pas du tout?
Si on préfère quoi?
Qu'on vous regarde.
Alors, généralement, on fait ce métier-là pour être vu. Et en plus, on a la prétention, enfin, on a une sorte d'envie, c'est qu'on se souvienne de nous. C'est-à-dire que moi, si tu sors de la salle et que tu te souviens pas... D'un moment ou d'un sentiment que tu as eu, c'est que j'ai raté mon coup. Donc oui, bien sûr, on va devant le public et se mettre dans la lumière pour qu'on soit vu. On adore être vu dans ce métier-là. Ouais.
À quel moment vous avez dit que vous allez faire rire sans parler?
Quand je me suis aperçu que beaucoup de gens parlaient beaucoup et que c'était pas forcément...
Marrant.
On est dans une époque très bavarde où les gens parlent beaucoup, remplissent beaucoup le vide, et je me suis aperçu que les moments d'hésitation et de fragilité et de silence étaient parfois plus forts que les mots. Donc j'ai utilisé ça le plus possible.
Le trac, c'est avant, pendant ou tout le temps?
Le trac, je pense que je l'ai eu comme toi quand je suis né, et je pense que ça sera jusqu'à la fin de ma vie. J'ai des peurs et les voilà. Alors après, le trac, le fait de passer en scène, c'est un truc, je sais pas, pour beaucoup de gens ça paraît un peu négatif d'avoir le trac, c'est qu'on a peur, mais en fait cette peur là elle est très légitime parce que ça veut dire qu'on se soucie de bien faire. Donc vaut mieux avoir un peu le trac, et il y en a un peu avant, plus du tout pendant, puisque pendant on se pose plus de questions, et après encore moins, puisqu'on voit les gens, ils sont contents, on boit des verres avec eux, c'est la fête après.
Vous avez déjà pensé à devenir extraverti ou c'est trop risqué?
Alors qu'est-ce que c'est extraverti? Ça, je ne vois pas ce que c'est.
C'est quand on aime parler aux gens, être sociable.
Alors, moi, je l'ai toujours été dans la vie sociable, extraverti. En fait, moi, je croyais qu'une personne extravertie, c'était original, très, très ouais ultra
à l'aise en public.
ouais peut-être trop même tu vois qui c'est la personne qu'on entend le plus tout ça. Moi je suis très sociable mais j'aime aussi avoir un petit peu de discrétion.
Je pense que la question c'était aussi par rapport au personnage. Est-ce que ce
Alors
personnage-là, il peut évoluer et être plus à l'aise?
ouais, alors bah, il a évolué évidemment puisque je l'ai joué pendant 20 ans, ce monsieur Fraise. Donc il en a vu toutes les couleurs, moi aussi, avec lui. Et le personnage au début était très, j'allais dire, classique. Et à force de le travailler, d'être en scène devant le public, j'ai découvert des facettes qui m'intéressaient chez lui, comme la peur, comme quelqu'un qui était suréduqué, quelqu'un qui a peur de manquer, toutes les faiblesses de l'humain. Et ces faiblesses-là, je les ai travaillées petit à petit, et ça en est devenu un personnage, et tu as raison, à ce moment-là, extraverti, en tout cas complètement singulier, qui pourrait exister, même si on n'a pas envie d'être à sa place.
Prenez-vous du plaisir à venir ici à Meute Servolex?
Alors, je prends du plaisir pour plein de raisons. Déjà parce que je suis assez fan de la Chartreuse, dans lesquelles j'ai mes amis, les amis du Zygomatic Festival, de l'association Instinctaf. Je parraine leur festival depuis 10 ans. Je les connais depuis 15 ans. Et c'est une belle aventure humaine. Et du coup, on se voit très régulièrement. Et la Motte Servolex, ben, j'ai vu le spectacle de Jean-Claude Dickenoit l'année dernière. J'ai beaucoup aimé cette salle. Et la Motte Servolex aussi. Alors là, je vais raconter ma vie privée. Mais la petite dame en vert que tu vois dehors, et ben, je l'ai rencontrée il y a 32 ans à la Motte Servolex. On est venu, mon petit frère nous a prêté son appartement. Et puis, ben, ça a été la première rencontre amoureuse. Voilà. J'ai rencontré ma femme à la Motte Servolex. Ça intéresse personne. Hein. Il peut y avoir des c'est pas vrai. Non mais après, putain, mais c'est un scoop là que je vous donne.
32 ans, c'est vrai que c'est ancien.
32 ans, c'est ancien, on
Ouais,
est
c'est
d'accord.
vieux.
Elle devait avoir 17 ans.
Ah ouais.
Parce que vous êtes de là, à la base, ou pas du
Non,
tout?
moi je suis lyonnais et on s'est installé en Bourgogne. On est en Bourgogne depuis qu'on a des enfants.
Pourquoi avez-vous choisi d'être le parrain du festival?
Alors pourquoi j'ai choisi d'être parrain du festival? Eh bien parce que c'est un festival qui réunit exactement tout ce que j'aime, c'est-à-dire une bonne grosse dose d'humanité, une envie de réunir des gens, et de réunir des gens qui n'ont pas toujours l'occasion d'être réunis, parce que quand on va dans des patelins comme la Motte, ou comme... Enfin la Motte, ça va, ils sont gâtés, ils ont une salle de théâtre, mais quand ils investissent une salle des fêtes... à la Bridoire ou à Saint-Thibaut-de-Coux, et ben ça permet à faire sortir des gens qui peuvent pas aller jusqu'à la ville. Donc le fait que ce soit un festival de spectacle itinérant, ça demande beaucoup de courage et une certaine foi. Et j'adore la mentalité qui ressort de ce festival et de cette association en particulier.
Où allez-vous?
T'inquiète, t'es
Où
pas là.
allez-vous?
On ne s'aperçoit pas du tout que tu lis la question, là.
Bah, où allez-vous quand
T'es pas là,
vous
t'es...
faites votre spectacle en général?
Alors, j'adore avant tout, effectivement, tourner, être en tournée avec ce spectacle, et je vais tous azimuts, c'est-à-dire que je peux aller en France, en Suisse, en Belgique, dans le Nord, dans le Sud, dans l'Ouest, dans l'Est. J'adore parce que c'est toujours des rencontres, des publics différents. Et puis de temps en temps, bah, je vais aller me mettre en vitrine à Paris ou à Avignon pour faire un peu la star. Mais je dois dire que ce que je préfère avant tout, même s'ils ont des très belles salles à Paris et un public plutôt très preneur de ce que je fais, j'adore avant tout être en tournée.
Comment avez-vous construit ce personnage si particulier?
Construit. Ah ben c'est ce que je te disais tout à l'heure, petit à petit, je l'ai découvert en même temps que le public. Je connaissais pas tout de lui, je lui avais donné certains codes, certaines limites, et puis j'ai fait sauter les limites. Puis j'ai été aidé d'un metteur en scène qui s'appelle Papy. Papy, c'est ce gars-là que certains d'entre vous connaissent, puisque vous ne regardez pas la Star
Si.
Academy.
Non.
Si.
Voilà, il était prof de théâtre, c'est la Star Academy, c'est ça,
Si.
Cette année. Et Papy, c'est quelqu'un qui aide les gens à être en scène et se sentir de mieux en mieux et qui ouvre les possibles. qui ouvre les vannes. Et pour le coup, petit à petit, avec l'aide de certaines personnes, j'ai fait évoluer ce personnage. Voilà.
Quelle place laissez-vous à l'improvisation sur scène?
Elle est totale. Monsieur Fraise, il a tous les droits, il a le droit de tout faire. Et je le connais très bien. Et pour le coup, quand je le laisse faire, je sais que je peux lui faire confiance et qu'il peut improviser. C'est juste qu'il ne faut pas que j'improvise trop, parce que sinon, après, le spectacle risque d'être trop long. Mais c'est un garçon qui n'est pas à l'aise en public, mais il oublie pourquoi il est là, et du coup, il pourrait faire 4 heures. Voilà, il a une grande liberté.
Comment votre travail a-t-il évolué au fil des années?
Alors, j'ai envie de te dire, bien, parce qu'il a bien évolué, puisque ce personnage, plus j'y ai goûté, plus je l'ai aimé, et il a quand même été 20 ans sur scène, donc c'est un gage, généralement, du fait que ça marche en public, que le public aime ce personnage, et forcément, quand le public aime, on lui donne encore plus. Donc c'était un beau parcours.
Là, ce spectacle-là, c'est pas le premier qui a été créé.
Si, c'est le premier qui a été créé.
Mais qui est plus le même, du coup, j'imagine.
Qui est le même, mais que j'ai repris récemment. Je l'avais laissé pendant 6 ans pour laisser la place à Madame Fraise, qui est un autre spectacle d'un genre tout à fait différent. Et là, je le reprends un peu. Je me fais un cadeau et on se fait un cadeau réciproque avec le Zygomatic Festival, parce que ils l'ont programmé il y a 15 ans, Monsieur Fraise, et c'est toujours un plaisir de revoir un personnage qu'on a aimé, quoi.
Que souhaitez-vous que le public retienne après votre représentation sur scène?
Alors, j'ai pas la prétention qu'ils retiennent quelque chose. En fait, c'est ce que je te disais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Déjà, si les gens ont ri, s'ils ont eu peur, s'ils ont eu des émotions, s'ils n'ont pas aimé, c'est que je leur ai fait quelque chose. Donc on vient pour provoquer des émotions au théâtre. Donc ça déjà, c'est un contrat qui est bien quand il est rempli. Et puis après, si pour certains, quelques temps plus tard, ils se souviennent d'un moment heureux avec ce spectacle, c'est encore meilleur, c'est encore mieux.
Quel artiste vous a influencé?
Alors, vous ne devez pas les connaître parce qu'on n'est pas tout à fait de la même génération. Mais je vais vous citer, la plupart des artistes que je vais vous citer, ils sont morts et enterrés depuis longtemps. Mais j'allais dire principalement Coluche au départ. Après, je vais vous citer un clown comme Raymond Devos. Il y en a peut-être un que vous connaissez, c'est Mr Bean à la télévision. Ça, c'est un personnage qui m'a beaucoup influencé. Et puis particulièrement un personnage qui n'est pas très connu du grand public, qui s'appelle Andy Kaufman, qui était aux États-Unis et dont Milos Forman a fait un film qui s'appelle Man on the Moon. Personnage très, très décalé.
Les artistes que vous avez cités, je les connais, j'ai l'impression d'être vieux.
Tu dois avoir 50 ans comme moi, ouais. Non, c'est bien, t'as une grande culture générale, parce que c'est des artistes que la génération plus récente ne connaît pas, parce qu'il y a plein d'artistes, aujourd'hui, des artistes, ils en poussent autant que de comptes Instagram. Donc.
Comment voyez-vous l'évolution de l'humour aujourd'hui?
L'évolution de l'humour aujourd'hui, je crois qu'on va être d'accord que ce qui a pris le plus de place, c'est le stand-up. Vous connaissez tous le stand-up?
Oui, ouais.
Voilà, c'est cet exercice où il y a moins de personnages. Alors moi, je le regrette un peu parce que je suis un grand amoureux des personnages, mais le stand-up prend beaucoup de place. Et puis après, l'humour, c'est devenu quelque chose de très, très en vogue, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a de plus en plus d'humoristes et de gens qui se lancent dans l'humour. J'allais dire, peut-être qu'il y en a trop, peut-être qu'il faudrait qu'il y en ait un peu moins, parce que du coup, tout ça devient un peu too much, quoi. Moi, je sais pas. De toute façon, la sélection est naturelle. Les gens qui font ce métier-là et qui l'aiment, ils le continuent. Puis après, t'as des gens qui font ce métier-là, mais pas pour les mêmes raisons, parce qu'ils ont envie d'être connus, quoi, tout simplement.
Et justement, moi je voulais rebondir là-dessus, vous parliez d'Instagram tout à l'heure, et là peut-être qu'il y a trop d'humoristes. Je sais pas comment vous voyez ça, parce qu'aujourd'hui, ouais, il y a plein d'extraits des spectacles qui sont découpés, qui passent et tout. On sait qu'on construit aussi les spectacles pour avoir un spectacle, pour un passage qui fait le buzz et qui tourne.
Oui, mais ça, après, y a, tu sais, ça, c'est au moment d'être en spectacle, en salle, que les masques tombent. Hein. Un humoriste, si on parle de l'humoriste dont c'est le métier, et pas quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube et qui va derrière faire un spectacle juste parce qu'il a assez de fololo. Un humoriste, normalement, son métier, c'est pendant une heure et demie de capter l'attention des gens. Donc ça, s'il est capable de faire ça, le YouTuber, bien sûr qu'il a sa place. Après, t'en as d'autres qui s'aperçoivent que la scène, c'est autre chose que de faire des vidéos chez soi ou dehors. Mais il y a la sélection naturelle, le public s'y trompe pas normalement.
Pensez-vous que le silence a encore une place importante dans une présence humaine?
14, vas-y.
Pensez-vous que le silence a encore une place? Pourquoi tu ris?
T'as vu comme le silence peut faire rire?
Pensez-vous que le silence a encore une place importante dans un monde très bruyant?
Eh ben, en fait, moi je trouve que c'est évident. Quand ça fait du bruit, moi, ma femme, elle est institutrice. Si tous les élèves parlent dans sa classe et qu'elle, elle est dit oh, vous taisez, ça ne marchera pas. Alors que si elle se tait, tout d'un coup, la salle, elle va finir par se taire aussi. En fait, pour lutter contre le bruit, il faut faire des silences. Donc, bien sûr qu'il a sa place. Ah oui, il faut, y a beaucoup de gens qui feraient mieux de fermer un peu leur gueule.
Avez-vous un mot pour les personnes qui aiment se lancer dans l'humour?
Un mot pour les gens qui aiment les silences?
Pour des personnes qui aiment se lancer dans l'humour ou...
Ah ouais, d'accord. Eh ben, s'ils ont envie d'essayer, qu'ils essayent. Qu'ils n'attendent pas qu'on leur dise « t'es prêt, c'est pas le moment ». Qu'ils essayent. Il y a plein de scènes ouvertes en France. On a cette chance-là. On a quand même un pays qui offre la place à la culture. Donc, qu'ils essayent. Et puis, ils sauront si... Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Il a fallu que je m'essaye pour savoir si j'étais un peu fait pour ça. Donc, qu'ils essayent. Et puis, s'ils y prennent du plaisir, qu'ils continuent. Si ça marche, qu'ils continuent. Si ça les fait souffrir et que ça marche pas, bah, qu'ils arrêtent. Oh, le silence derrière!
Et que pensez-vous de l'humour noir que certains humoristes emploient?
Bah, tu sais, il y a autant de styles d'humour que de goût pour l'humour. C'est-à-dire que moi, y a, l'humour noir peut me faire rire si c'est bien fait. Tous les humours ont leur place. Il faut... c'est la grande chance. On est en interview, les filles. Donc, je pense que vous allez rester dehors. Mais vraiment. T'as vu que comme tu peux faire croire n'importe quoi aux filles. Après, les filles sont souvent pas fut-fut, hein. Tu remarqueras. Surtout les femmes âgées. C'est des bénévoles, hein. On a le droit de dire ce qu'on veut, tu rêves. Alors donc, oui, place à tous les goûts. Et surtout, la réponse c'est... la France est censée être un pays où on a des libertés, et la liberté d'avoir chacun son style, c'est cette fameuse liberté d'expression, elle est importante, donc il faut qu'il y en ait pour tous les goûts.
Vous pensez quoi de l'humoriste Dieudonné?
Dieudonné, il a sa place. Donc,
il y a plein de gens qui disent qu'il est de...
Oui, mais on peut dire ça sur plein d'artistes. Il y a sa vie privée, il y a ses pensées qui sont privées. En spectacle, tous les humoristes sont d'accord pour dire que Dieudonné est un humoriste qui est très très fort. Et après, il a surfé sur des sujets qui n'ont pas plu à certains. Il a été interdit, ce qui est complètement con, parce que interdire un artiste, c'est complètement... c'est hors d'âge. Enfin, je veux dire, et en plus, tant mieux pour lui, ça lui a fait de la publicité. Mais c'est quand même dommage que... la liberté d'expression n'ait pas été totale pour lui.
Vous pouvez bien sûr réécouter l'interview sur le site internet. On vous donne rendez-vous sur le site internet donc. Allez le voir en spectacle, c'est un humoriste très génial. J'allais dire meilleur que les autres maintenant. Mais allez le voir en spectacle, il y a un peu de partout en France. Ou alors allez le suivre sur les réseaux sociaux. C'était Evan, notre animateur préféré. À plus.
Un grand merci.
Et un grand merci à Monsieur Fraise de nous avoir accordé le temps. C'était Evan et la petite bande de journalistes. Ciao, ciao.
La belle bande.
Buscavida.